Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer.
Le sujet ce soir qui nous intéresse est un sujet important. C'est peut-être le problème le plus important qui soit sur toute la surface de la Terre au niveau de chiffres que nous fait entendre, par exemple, un organisme sérieux puisque Suisse. Il paraît que les Suisses sont des gens sérieux. Est-ce qu'il y a des Suisses parmi nous? Levez la main, les Suisses? Non, tant mieux. En tout cas, il s'agit de l'Organisation mondiale de la santé à Genève, qui nous faisait savoir, il n'y a pas encore tellement longtemps qu'à l'heure qu'il est, 7 à 8 personnes sur 10 au monde souffrent d'angoisse. Nous y voilà. Il y a peut-être ici quelqu'un, quelqu'une qui sait de quoi nous parlons quand nous parlons d'angoisse. D'être et de vivre angoissé sur cette terre, c'est le mal dont notre humanité souffre le plus. Il n'y a jamais 7 ou 8 personnes qui souffrent de cancer ni de sida sur la surface de la terre. C'est réellement, nous disent à l'heure qu'il est nos savants, tous nos psys, n'est-ce pas? C'est réellement le fléau du siècle. Et où que l'homme vive, où qu'Alain Chouaquier se situe, sous quelques cieux que ce soit, sur la surface de la terre, couramment il est en face d'hommes et de femmes, qu'ils aient la peau d'ébène, la peau rouge, la peau jaune, ou la peau blanche, en face d'hommes et de femmes qui éprouvent de ces angoisses qui les jettent dans un vertige existentiel absolument épouvantable. Alors l'angoisse, bien entendu, d'entrée de jeu, il importe de préciser que nous ne traiterons pas de ces angoisses pouvant résulter de troubles de la santé physique. Ce genre d'angoisse relevant de la médecine scientifique. Mais nous approcherons ces autres angoisses qui peuvent résulter de troubles de la santé morale et spirituelle. Et ce type d'angoisse est plus important, plus répandu en tout cas, parmi les hommes que ces autres angoisses résultant de troubles de la santé physique. Et pour introduire ce grand sujet, 2 passages. Un premier au livre de Job, quelques versets dans lesquels nous pourrions nous reconnaître pour avoir peut-être posé les mêmes questions que celui qui les pose maintenant et que nous allons entendre ensemble. Job 3, à partir du verset 20e. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre? Pourquoi donne-t-il la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme et qui espèrent en vain la mort? Ils sont plus nombreux qu'on le pense, là. Et qui la convoite, cette mort, plus qu'un trésor qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau. Au verset 23e, pour une meilleure compréhension du texte, nous reprenons la question du verset 20e. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à l'homme qui ne sait où aller, et qu'il cerne de toutes parts? Mes soupirs sont ma nourriture, et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Oh, ils sont des millions, sinon des milliards, qui pourraient tenir de même propos dans ce jour du 25 septembre, en Suisse, en Belgique, en France ou ailleurs. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. et le trouble s'est emparé de moi. Oh, nous vivons une fin de siècle absolument époustouflante de conquêtes, impressionnante à bien des égards, qui connaît des changements remarquables. Et ces hommes que nous sommes, n'est-ce pas, en cette fin de siècle, devraient vivre des lendemains qui... Oui, ces lendemains qui devaient chanter, hein. Oui, et dont on parlait beaucoup, voilà, quelques courtes décennies. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que précisément ces lendemains dans lesquels nous nous situons aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils déchantent. Et malgré les progrès en tout domaine, malgré toutes ces révolutions par lesquelles notre humanité est en train de passer de façon absolument merveilleuse, au plan humain, je dirais, pouvons-nous affirmer que l'homme est heureux, plus heureux que précédemment, sur cette bonne vieille terre? Certainement pas. À partir de chiffres comme ceux que je vous ai dit tout à l'heure, 7 à 8 personnes sur 10 souffrant d'angoisse, aujourd'hui sur notre bonne vieille terre, pour ce qui est de nous, Français, tout près d'ici. Un Français sur 3 ne dort pas bien. Non pas que nous manquions de bons matelas en France, vous savez, vous êtes sûrement venus les essayer, hein. Nous en avons d'excellents. Et pourtant, malgré nos bons matelas comme Epeda Multispire, les matelas d'un Lopio, Simone, etc., je ne fais de réclamation pour aucun de nos matelas, hein. Si un Français sur 3 ne dort pas bien, c'est parce qu'il est chargé, intérieurement angoissé, tourmenté. Mais je suis persuadé qu'il en est ainsi de vous en Belgique. Je n'ai pas les chiffres pour la Belgique, mais voyez-vous, nous sommes tellement voisins que lorsque le vent souffle du midi, hein, vous êtes presque français ici, dans le Borinage. Oui, c'est une situation, en tout cas, qui est rencontrée partout, au milieu des hommes qui se ressemblent de plus en plus, car notre monde, grâce aux formidables moyens de communication dont nous pouvons disposer, se rétrécit de plus en plus. Quelques-uns sont même allés jusqu'à dire, parmi nos savants, que l'angoisse peut être considérée aujourd'hui comme notre ennemi public numéro 1. Un éminent psychologue du moment en France, le docteur Pierre Dacco, dont j'ai au moins 2 livres à la maison, affirme ce qui suit. Tout être humain ne peut faire autrement que d'être et de vivre angoissé aujourd'hui. Tandis que Jean-Paul Sartre, avant sa mort, avait pour sa part écrit ce qui suit. L'angoisse est tapie au fond de chacun de nous. Et il y a au fond de chacun de nous, c'est toujours lui qui parle, un bleu, une meurtrissure, morale bien entendu, hein, qui n'est autre que la terreur. Oh, nous a-t-on voulu sur cette terre pour vivre de cette façon-là? Là est toute la question. En France, nous consommons 175 millions de boîtes d'anxiolytiques, de neuroleptiques et de tranquillisants par année. Nous sommes en France les plus forts consommateurs au monde de tranquillisants. C'est vous dire à quel point nous sommes tranquilles, là, tout près de chez vous. Mais c'est réellement un problème énorme au sein de l'Hexagone. Nous nous gavons de médicaments et surtout de tranquillisants. Ce même Jean-Paul Sartre citait tout à l'heure de dire encore ce qui suit, tous les hommes ont peur. Celui qui n'a pas peur n'est pas normal. Fou, hein, comme réflexion. Alors une question, est-ce que nous sommes ici à Wam des gens normaux, hein? Ou bien avons-nous, comme disait quelqu'un, des papillons sous l'abat-jour? Pour sa part, un autre auteur français dont j'ai visité la ville il y a peu de temps mais qui est mort il y a quelques courtes années, Gilbert Cesbron, à propos de la Terre, avait dit ce qui suit la Terre. Mais c'est la planète de la peur. Oui, de la peur de vivre. De la peur de mourir. Lequel d'entre nous n'a pas une fois ou l'autre éprouvé justement ce sentiment de peur panique devant la vie, devant la mort, pour des raisons qu'il n'a pas comprises. Lequel d'entre nous n'a pas éprouvé ce que nous disent tant et plus d'auditeurs lors de nos émissions à la radio, Alain Choiquier, pourquoi une boule dans la gorge? Ça, l'angoisse. Pourquoi le ventre qui serre, le cœur qui étrangle? C'est encore cela, l'angoisse. La plupart du temps, nos savants disent qu'il n'y a pas de raison véritable à nos angoisses et qu'il importe de les accuser, de les vivre. Va et beaucoup tentent de les noyer, leurs angoisses, dans l'alcool, dans la drogue, ou bien encore dans une vie exagérément active, pour oublier, ou encore dans ces sciences qu'il est convenu d'appeler les sciences occultes, pour se tirer d'affaire. Oh, à propos justement de sciences occultes, savez-vous qu'on peut être angoissé même quand on est astrologue ? Nous avons en France une astrologue de réputation nationale, sinon internationale. Vous devez l'entendre jusqu'ici, j'espère que non. Vous voyez de qui je veux parler? Qui porte un nom prédestiné? Une certaine Madame Soleil? Toutes les fois où j'ai l'occasion de l'entendre, surtout à la radio de ma voiture, cette Madame Soleil me donne plutôt l'impression d'être dans la Lune. Oui. Avec ses astres. Mais il lui est arrivé, Madame Soleil, d'écrire, en tout cas, une affaire tout à fait réelle qu'elle avait adressée aux Français en ces termes. Si, en France, avait-elle dit, les chrétiens faisaient leur boulot textuellement, on n'aurait plus besoin de moi. Il me semble que si Madame Soleil un jour dit quelque chose d'exact, ce fut cette fois-là. En tout cas, je me souviens qu'à la suite d'une tournée québécoise, à la fin d'une tournée québécoise il y a quelques années, me situant dans une église de langue anglaise où il y avait eu énormément de monde, à l'appel pour recevoir Christ, un homme et une femme s'étaient avancés la main dans la main entre tous ceux et celles qui étaient venus devant pour être aidés à recevoir Jésus-Christ dans leur vie pour leur sauveur personnel. Et ce couple m'avait dit, Alain Choiquier, nous voudrions vous rencontrer, vous, en aparté. Nous avons bien des choses à vous confier, mais avant d'aller plus loin, m'avait dit la dame, regardez donc autour de vous. Peut-être comprendrez-vous. Alors j'avais jeté un œil jusqu'au balcon et puis vers l'auditoire et qui semblait avoir les regards fixés, écarquillés même, sur ce couple, le souffle retenu. Alors j'avais dû dire à ce couple, il semble qu'on vous connaisse. Et la dame m'avait dit, c'est moi que l'on connaît. Et l'on me connaît parce que je tiens une émission chaque semaine à la télévision canadienne. Ah oui, quelle sorte d'émission, si ça n'est pas indiscret. Eh bien, une émission d'astrologie. J'en avais éprouvé une sorte de sursaut, hein, d'étonnement. Madame, vous êtes astrologue, oui. Et je fais tout ce que je peux pour venir en aide à tous ceux qui m'appellent au cours de mon émission hebdomadaire à la télévision. Mais je ne comprends pas, madame, vous vous êtes avancée. Dans quel sens? Vous avez parlé, Alain Choiquier, de paix du cœur, de repos intérieur et de tranquillité d'esprit. Voilà pourquoi je suis devant vous. Et si le Christ accorde la paix du cœur, aidez-moi à le rencontrer. Je ne comprends pas, madame, lui ai-je dit. Vous êtes astrologue. Que dites-vous à tous ceux qui vous interpellent, vous appellent, crient au secours ? Lors de vos émissions, monsieur, je fais ce que je peux, mais je n'ose pas dire à mes téléspectateurs, mes téléspectatrices, que je connais à peu près les mêmes mots qu'eux. Je vis à peu près ce qu'ils vivent. Mais madame, il faudrait le leur dire, parce qu'ils mettent leur confiance en vous, en quelque sorte, et puis vous voilà dans le même état. Je passe des nuits d'insomnie, mon mari est là pour en témoigner. Alors j'ai envie de sortir de cet état de choses pour connaître réellement cette paix dont il a été question ce soir. Comment recevoir Jésus-Christ ? Madame, savez-vous ce que la Bible dit de l'astrologie ? Non. Alors nous allons voir cela ensemble. Et une fois à l'écart, nous avons passé en revue quelques textes des Écritures traitant justement de l'exercice de cet art occulte que Dieu condamne absolument. Elle n'en avait rien appris, elle n'en avait rien su. Mais j'avais dû lui dire quand même, madame, il faut maintenant abandonner ces choses si vous voulez que le Seigneur vous sauve et fasse de vous une femme de paix, une authentique chrétienne dans votre cœur. Nous avons donc lu encore d'autres passages et je l'avais invité à prendre Christ pour son sauveur personnel et à renier l'astrologie, ce qui fut fait. Son mari après elle, tous deux s'étaient mis à prier après moi pour se sortir des pièges du malin, parce que la Bible dit que lorsque l'on exerce ce genre de science, de pseudo-science, en plus occulte, on a versé dans les pièges du malin. Et puis une fois la prière terminée, je m'étais posé la question, mais vont-ils tenir quand, quelques mois plus tard, cette fois en France, me situant à Roissy-Charles-de-Gaulle, l'aéroport français, parisien, desservant l'Amérique du Nord pour y attendre un ami américain venant de New York, on m'avait tapé sur l'épaule une dame. Vous êtes Alain Choiquier, oui. Vous me reconnaissez? Non. Je vois beaucoup trop de monde. Je suis cet astrologue qui s'était avancé à l'appel. À Montréal, de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, ça vous dit quelque chose? Ah oui, certainement. Avec mon mari. Il ne m'a pas accompagné dans ce voyage en France, mais je vais à Nantes à la rencontre de l'une de mes filles qui s'y trouve actuellement. Mais comment allez-vous, madame, et votre mari? Eh bien, nous avons laissé l'astrologie. Je n'ai plus d'émission. Et alors qu'il est, nous vivons avec le Seigneur. L'ami américain avec moi, venant de New York, n'en revenait pas, n'en croyait pas ses oreilles. Celui qui vous parle non plus. Le Seigneur avait opéré dans ce cœur une transformation remarquable. Il avait chassé le malin pour prendre la place, sa place, dans le cœur de cette femme et puis dans le cœur de son mari. Mes amis, la Bible n'accorde aucune circonstance atténuante à l'astrologie. Qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce cet art occulte, dit la Bible, personne qui évoque les morts, personne qui soit voyant, et qui soit cartomancienne ou autre. Parce que le Seigneur voit beaucoup plus loin que nous, et il sait que derrière toutes ces choses, il y a celui que Jésus appelle le prince de ce monde, le menteur, celui qui nous trompe. Et il nous trompe avec l'astrologie. La Bible parle-t-elle d'astrologie? Certainement. Mais pas dans les termes de nos astrologues. Oh, elle dit des choses remarquables à cet égard. Elle parle aussi d'astronomie. On peut s'étonner que la Bible évoque les signes du zodiaque. On peut s'étonner que la Bible nous fasse savoir que chaque étoile porte un nom. Nous n'avons plus le nom des étoiles. Mais je suis persuadé que Dieu n'est pas ce que nous sommes et que lorsqu'il donne un nom, ce nom porte un message. Et la Bible nous dit aussi que les cieux racontent la gloire de Dieu. Est-ce la gloire de Dieu que nous racontent nos astrologues aujourd'hui, qu'ils soient belges ou français? J'ai pu savoir il y a peu de temps qu'un astrologue bruxellois, alors qu'il ait fait fortune grâce aux fluctuations de la bourse, les hommes d'affaires à Bruxelles ne sachant plus à qui se vouer, consultent cet astrologue pour savoir dans quelle direction donner, n'est-ce pas? Et lui, en attendant, ben, il a trouvé une mine dans les étoiles. Une mine d'or dans les étoiles, ainsi en est-il aussi à Wall Street, à New York, d'une certaine Debra Lynch qui fait fortune parce qu'elle avait pu annoncer le krach boursier de l'automne 87 et parce qu'il en fut ainsi, le journal de Wall Street de cette bourse new-yorkaise lui offre ses colonnes dans lesquelles elle écrit. 40% de Debra Lynch, de ses clients en tout cas, sont des hommes d'affaires de première importance. Et savez-vous pourquoi? Parce que, paraît-il, elle dit vrai 5% du temps. Ah oui. Mais nous en sommes là. Nous vivons un siècle complètement déboussolé parce que pour celui qui vous parle, si elle dit vrai 5% du temps, ça veut dire qu'elle se trompe 95% du temps. Mais mes amis, comment se fier à quelqu'un qui se trompe 95% du temps? Et pourtant, nos astrologues en France font fortune. Le chiffre de la profession est de 9 milliards. Convertissez en francs belges. 9 milliards de francs lourds, hein. Enfin, qui deviennent de plus en plus légers, c'est vrai. Mais enfin, nous en sommes là. Peut-être, justement, avez-vous donné dans cette direction parce que déboussolé. Savez-vous que personne n'a parlé de paix comme le Christ en a parlé? Oh, il a dit en Jean 14, 27, ça nous concerne tous. Et cela nous concerne chacun, hein, tout seul, chacune. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, dit Jésus. Pas n'importe quelle paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Oh, mes amis, nous avons besoin de ce message. Lequel d'entre nous ici peut dire que ce message du Seigneur ne le concerne pas du tout? Dans un siècle qui verse de plus en plus dans l'angoisse et la peur de vivre. Et savez-vous que l'on peut être aussi angoissé et psychologue? Ça peut être étrange. Pourtant, vrai. J'ai eu en Suisse, dans l'auditoire, un psychologue. Et pourtant, je ne tire jamais sur la psychologie. Je crois qu'elle nous a enseigné bien des choses et que si j'en avais eu le temps, j'aurais peut-être tenté une licence de psychologie, mais le doigt dans l'engrenage, je n'ai plus eu de temps que pour le Seigneur et que pour le servir. Mais je suis persuadé que la psychologie nous a beaucoup appris. Il y avait dans un auditoire un psychologue, lequel, après un message de ce type, était venu vers moi pour me dire « Votre message m'a intéressé au premier chef. D'abord parce que je suis quelqu'un de très angoissé, de très chargé intérieurement. Et puis aussi parce que je suis psychologue. Là, en l'écoutant, je vais éprouver le même sursaut qu'en face de l'astrologue en Amérique du Nord. Alors avant de vous entendre, monsieur, lui ai-je dit, permettez quelques questions de ma part. Oui, allez-y. Vous êtes avancé, pourquoi? Simplement que je suis très chargé. Vous avez parlé de paix intérieure, de repos du cœur. Mais je suis là pour cela. Et vous avez dit que le Christ accorde cette paix. Alors aidez-moi à recevoir Jésus-Christ. C'était la première fois qu'un psychologue, après coup, oui, mais là, c'était la première fois qu'un psychologue me parlait de cette façon-là. Alors, lui ai-je dit, mais monsieur, vous avez un cabinet de consultation, vous recevez des clients, que leur dites-vous? Vous êtes chargé, angoissé. Alors lui, ce docteur m'avait à peu près fait entendre les mêmes questions que cet astrologue à Montréal. Je n'ose pas dire à mes patients que je connais à peu près les mêmes mots qu'eux, les mêmes problèmes qu'eux. Et puis il m'avait dit encore, souvent je profite de la présence de mes patients dans mon cabinet de consultation pour me décharger, moi, psychologue, de mes propres problèmes sur eux. Alors s'il y avait parmi nous un psychologue ce soir ou un psy quelconque, qu'il n'en s'en trouve pas du tout heurté, je ne veux pas tirer à boulet rouge, certainement pas, hein. Mais simplement rapporter une histoire que j'ai vécue au cours de réunions de ce type. Et puis, m'a-t-il dit encore, nous avons besoin, entre psychologues, entre confrères de même profession, de nous rencontrer régulièrement pour nous analyser et nous psychanalyser les uns les autres. Nous en avons besoin. Alors là, j'avais failli lui dire, je n'avais pas osé, je ne le connaissais pas assez, mais j'avais failli lui dire, écoutez, docteur, vous êtes malade. Ça ne fait aucun doute. Mais ce psychologue, sur ma demande, s'en était entièrement remis au divin psychologue pour se tirer d'affaire en confessant ses péchés. J'ai dû lui poser la question. Tout psychologue que vous soyez, cher monsieur, croyez-vous au divin psychologue, le Seigneur, qui vous connaît dans vos mécanismes les plus profonds, qu'ils soient psychiques, physiques, physiologiques, beaucoup plus que vous-même, et qui vous aime et qui vous a fait? Voulez-vous vous mettre dans ses mains? Voulez-vous faire une nouvelle route avec lui? C'est lui qui vous a créé. Et ce psychologue s'était donné au Christ. Nous avions convenu de nous rencontrer le lendemain, ce qui fut fait pour lire la parole, prier ensemble. Et au moment de nous quitter, en nous serrant la main, savez-vous ce que cet ami avait pu me dire? Alain Choiquier, il me semble maintenant que je saurai comment venir en aide à mes patients, à mes malades, avec bien entendu la parole de Dieu. Oh, l'évangile est un message de paix. Mais un message de paix que les hommes ne veulent plus entendre. Allez chercher, allez savoir pourquoi. Je ne juge personne parce que vous savez que celui qui vous parle est un ancien athée. Hein, je le dis dans mon livre Un seul chemin. Moi, je ne suis pas venu au monde en chantant un cantique. Pas même vous, hein. Personne aux études, au carrefour de courantes pensées nihilistes, matérialistes, ben j'avais versé, hein, dans, carrément dedans. Mais heureusement que le Seigneur me rattrapa dans son amour, et ce de justesse, alors qu'il me voyait partir littéralement à la dérive. Oh, quand j'avais pu parcourir l'Évangile, le lire comme cela, mais que cet homme qui s'est appelé Jésus m'avait impressionné. Quelle stature! Quel personnage, pas simplement de l'histoire. Jamais personne n'a pu parler comme cet homme. Jamais personne n'a pu vivre comme cet homme. Jamais personne n'a pu mourir comme cet homme. Jamais personne ressuscité comme lui. Oh, l'angoisse! Alors le Seigneur a une réponse solide. L'espoir. Un éminent psychologue du nom de Maître, pour le prononcer exactement, mais en français nous disons couramment Médère, dont j'ai un livre à la maison, Vers la guérison de l'âme, le docteur Médère a écrit ce qui suit, sans évoquer le Christ ni Dieu. L'angoisse chez l'homme d'aujourd'hui correspond à une maladie de sa conscience. C'est-à-dire que j'avais bien aimé ça. Et il avait développé, il développe ce sujet dans ce livre. Mais pour ceux qui m'avaient concerné, je m'étais demandé ce que la Bible pouvait en dire de cette maladie de la conscience. Alors regardons un peu ensemble justement ce qu'elle en dit. Au psaume 107e, L'angoisse, en quelque sorte, c'est l'homme qui est malade dans sa conscience, a dit le docteur Médère. Que peut-on dire la Bible ? À la lecture de certains versets, j'ai pu découvrir qu'elle avait parlé de cette maladie de la conscience bien avant le docteur Médère, des siècles avant lui. Psaume 107, verset 17. Les insensés, qui sont-ils ceux-là ? Ce ne sont pas les fous alliés. Hein. Ce sont ceux qui pensent pouvoir faire la route de la vie sans compter avec Dieu. La Bible dit, le fou dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur péché, s'étaient rendus malheureux. La Bible nous fait savoir par là que le péché peut rendre terriblement malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Il s'agit là d'une vraie déprime. Et un psychologue parmi nous parlerait à cet égard, à propos de ce verset, d'anorexie mentale. Et ils touchaient cela aux portes de la mort, dans leur détresse. Oui, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses, nous y voilà. Il envoya sa parole et il les guérit. Oh, c'est la parole de Dieu qui nous est envoyée ce soir, dans ce lieu qui peut nous guérir de nos angoisses. La parole de Christ. Personne n'a parlé de paix comme il en a parlé. Voilà donc des textes qui nous disent que la conscience malade nous empêche d'éprouver une quelconque paix, mais nous précipite dans la détresse. Et que la seule façon d'en sortir est de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu qui est précisément un message de paix. Il envoya sa parole et il les guérit, mais il y a un autre texte sous la plume de Paul, en Romains 2, 9, qui dit ce qui suit trouble et angoisse sur quiconque fait le mal. Oh, nous y voilà encore. En d'autres termes, l'apôtre affirme que quiconque fait le mal, eh bien, verse dans l'angoisse. Le mal, justement, étant générateur d'angoisse. La conscience malade, mais de quoi ? Le docteur Médère n'a pas précisé de quel mal. Notre conscience peut être atteinte pour éprouver, justement, ces angoisses. La Bible précise de quel mal. Nous pouvons être atteints, elle nous parle du péché. Et c'est de cette maladie du péché que nos consciences, à tous, sont atteintes. Parce que qui a commis le péché, le mal, pour être malade dans sa conscience, ici à Wam, qui ? Peut-être pensez-vous au voisin, un voisin irascible, invivable. C'est lui qui fait le mal, hein? Ou encore belle-maman, hein? Ou le cousin, la cousine, ou le patron, l'employé, mais jamais nous. Or la Bible dit quoi ? Tous ont péché, tous, et sont privés de la gloire de Dieu. Elle affirme également que plus nous nous éloignons de Dieu, plus nous versons dans l'angoisse. Et ceci n'est pas étonnant, puisque en s'éloignant du Dieu que la Bible appelle le Dieu de paix, comment voulez-vous qu'il en soit autrement ? Nous avons besoin de ce Dieu qui est la paix dans sa personne. Ah oui, nous sommes malades dans nos consciences de cet horrible mal qui s'appelle le péché. Oh, la Bible nous entretient du péché. Elle nous dit même que le salaire du péché, c'est la mort. Que l'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. À vue humaine, c'est sans issue. Alors où est l'espoir ? Voulez-vous nous renvoyer chez nous ? avec un tel message, c'est tout ce que vous aviez à nous dire? Non, certainement pas. Aujourd'hui, l'espoir intervient de la manière suivante. Si le psychologue ne peut rien pour une conscience malade, si le médecin ne peut rien pour une conscience malade, si le philosophe ne peut rien, si la science ne peut rien, le Christ peut tout. Et c'est là qu'intervient l'espoir, aujourd'hui l'espoir, pas demain l'espoir, aujourd'hui. Et pourquoi le Christ est-il réellement l'espoir dans sa personne remarquable comme dans son œuvre de rédemption? Parce que la Bible nous fait entendre le message suivant. Hébreux 9, 14. Écoutons ce message tellement important. Parlons de conscience malade. Ce texte nous dit ce qui suit. Le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Purifie nos consciences. Nous y voilà. Des œuvres mortes du péché pour que nous servions le Dieu vivant. Comment guérir dans notre conscience? Par le sang de Christ, voyez-vous, la Bible dit que tant que l'homme vit dans son péché, tant qu'il est dans ses péchés, il ne peut pas éprouver une vraie paix intérieure, un vrai repos intérieur. Pourquoi cela? Parce que le péché est synonyme de mort. Le péché, c'est le trouble fait. Et le péché est source d'angoisse considérable. Et le péché envoie à la perdition, l'homme qui s'entête à vouloir continuer une existence dans ses péchés. Un autre texte dit ce qui suit, le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Oh, l'espoir, mon ami, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Que d'hommes, de femmes, au cours de mes tournées, déjà. Et puis, couramment, à droite, à gauche, en rencontrant Jésus-Christ, trouvent en lui le pardon de leurs péchés et la guérison dont ils ont besoin jusqu'au plus profond d'eux-mêmes pour se tirer d'une vie qui n'a aucun sens ni aucune raison d'être. Le Christ est votre paix. Voulez-vous l'accepter comme tel ce soir? En acceptant également ce que vous êtes, j'ai dû accepter ce que j'étais, un pêcheur perdu, voilà 41 ans, sur un terrain de volley-ball, j'ai rencontré Jésus-Christ, imaginez. Mais le Christ était là, au milieu de nous, sur ce terrain de volley-ball. Moi, je l'avais ignoré complètement. Des amis se donnaient à lui au fil des semaines, des mois, etc. Et puis, je les regardais transformés, oui, je constatais leur transformation. Leur changement, ils me parlaient de Jésus-Christ, nous continuions à faire du volley-ball en compétition. Et moi, j'avais mis dans mes études et dans le volley-ball toute mon âme, toute mon énergie, ne voulant rien entendre de Jésus-Christ. Mais à force d'en voir autour de moi, être transformé par Jésus-Christ, j'avais commencé de me gratter la tête. Voilà peut-être qui explique, hein. Oui, j'avais dû me poser des questions. Et puis, savez-vous, de ce terrain de volley-ball, où nous étions là, toute une équipe, est sortie toute une équipe de serviteurs de Dieu, de pasteurs, de missionnaires dans le monde francophone. Il y en a jusque sur l'île de la Réunion. Il y en a à Paris, à Grenoble, issus de ce terrain de volley-ball que le Seigneur avait visité. Quand je parle aux jeunes, alors couramment, je leur dis, puisqu'il était avec nous sur le terrain de volley-ball, sur ce terrain de volley-ball, c'est bien la preuve qu'il s'y connaît en sport, hein, le Seigneur. Et c'est ainsi que le Seigneur avait pu me guérir de ce mal de vivre que je connaissais en ce temps-là. Oh, la Bible dit que le Christ sur la croix non seulement a pris notre péché, mais il a aussi pris ces angoisses qui résultent du péché. Il l'a dit lui-même. Je suis angoissé jusqu'à la mort. La Bible le dit en Ésaïe 53. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Mais lui n'avait pas de raison d'être angoissé. Il n'était pas un pécheur comme nous. Il a été rendu semblable à nous en toutes choses hormis le péché. Il a été sans péché. Mais s'il a été angoissé sur la croix, c'est à cause de vous, de moi. parce qu'il portait nos péchés, comme si nos péchés personnels avaient été les siens, pour les expier, les évacuer, et pour nous en purifier. Et si nous le croyons, et si nous mettons notre confiance dans cette croix qui a porté notre péché, nous en sommes délivrés de nos péchés. Voilà comment on est guéri de nos péchés. La Bible dit tous les prophètes rendent témoignage que si tous ceux qui se confient en Christ pour leurs péchés reçoivent en son nom justement le pardon dont ils ont besoin. Nous avons besoin de pardon, du pardon de notre péché. Permettez pour conclusion que j'illustre ce que le Christ a fait pour chacun d'entre nous, en même temps que pour nous tous. Sur la croix, voilà 2000 ans, il est venu porter tout ce qui nous chargeait. Pour l'occasion, pour l'illustration, ce livre cesse d'être la Bible, parce que je n'ai rien d'autre autour de moi. Il représente tout ce qui charge l'homme aujourd'hui. Voilà. Son péché, voilà. Et en plus, c'est rouge, c'est bien. Merci. Voilà donc tout ce qui nous charge. Il s'agit là de notre condition humaine. Qui que nous soyons, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, que tout ceci nous entraîne de façon irrésistible au désastre, à la perdition éternelle, loin de la face de Dieu. Mais peut-être une question vous vient-elle, on ne comprend pas. Alain Chouaki, nous n'avons pas cherché à naître, encore moins pécheurs, et voilà que Dieu accuse. Non, Dieu ne nous accuse jamais au niveau de notre condition de pécheurs. Il sait que nous sommes tous nés pécheurs. Ce qu'il peut nous reprocher, c'est que nous persistions dans nos péchés. Quand en Jésus-Christ, il en a donné la porte de sortie, la guérison, alors là, oui, certainement, souvent, c'est ce qu'il m'avait reproché. Voilà 41 ans. Nous voilà donc tous dans cette situation-là. Et le péché est générateur d'angoisse, je le disais, d'anxiété. C'est lui aussi qui nous accorde une vie de soucis. Est-ce qu'on sait ce que c'est que le souci à Wam? Oui? Ah, le mot souci nous vient du latin sollicitare, hein, dont le terme, c'est un terme beaucoup plus fort que le mot solliciter en français qui signifie demander. Mais le mot sollicitare, en latin, c'est le mot qui peut aller jusqu'à dire bousculer, secouer. Et c'est tout à fait cela le souci. Le souci est précisément ce qui nous bouscule, qui nous tiraille, qui nous tenaille tous les jours. Et que de soucis résultent de nos péchés. Voilà donc notre condition humaine. Pensez-vous que celui qui est l'amour dans sa personne, en même temps que la paix dans sa personne, aurait pu nous regarder depuis là-haut, là, nous laisser aller à l'aventure comme cela à nous-mêmes, sans intervenir pour tenter de tout stopper, de tout arrêter? Oui, il l'a fait. Vous savez, en droit, nous avons, anciennement élève en sciences politiques, nous avons appris qu'il existe en France une loi qui peut condamner pour non-assistance à personnes en danger. Vous l'avez certainement, cette même loi ici en Belgique, dans vos juridictions. Mais en tout cas, pensez-vous que celui qui nous inspira cette loi serait resté là-haut sans intervenir sur nos voies d'égarement, d'errement, risquant un péril éternel? Non. S'il était resté dans son ciel, vous, ainsi que moi, nous l'aurions un jour accusé de non-assistance à personnes en danger. Mais il est intervenu. Il est venu sur cette terre en Jésus-Christ, voilà 2000 ans. Il est venu pour tenter de tout arrêter et de nous reporter sur orbite en quelque sorte. Il est venu pour que nous retrouvions le chemin de la vie. Il est venu pour que nous soyons sauvés. Et pour ce faire, il a dû donner sa vie en sacrifice sur la croix pour nos péchés. Oh, cette croix plantée en Golgotha. Pourquoi est-il venu ? Lui a été sans péché, ma main droite. Si ma main gauche vous illustre, m'illustre, ma main droite le représente. Il est venu porter justement sur la croix tout ce qui nous chargeait, nous condamnait, nous meurtrissait. Oui, la Bible dit qu'il a même été fait péché pour nous, afin qu'en lui nous puissions devenir justice de Dieu. Christ est mort pour nos péchés. Voilà le sens de la croix, le sens de sa venue sur cette terre. Mais quel espoir ! Alors ma main gauche, regardez-la, libre. Libre de tout péché. C'est tout le message de l'Évangile. Et c'est à partir de là qu'alors réellement, sa paix nous visite. Nous envahit la paix du salut. Comment accéder au salut ? Par la repentance, nous dit Jésus, et par la foi. Oh, Jésus a dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il faut donc se repentir, demander pardon. Ça lui a coûté la vie. C'est pour chacun de nous qu'il est mort crucifié par amour pour nous. Mais il reste néanmoins qu'il a dû mourir pour chacun d'entre nous. Alors il faut absolument nous repentir, venir à lui dans un esprit de pardon. Ô Seigneur, pardonne-moi. Je suis un pauvre type, c'est ce que j'ai dû dire. Vous savez, on nous disait bien dans la famille, un papa dans l'enseignement, des frères et sœurs aux études, moi-même aux études, alors ça c'était une famille bien. Parce que les gens vus de loin sont toujours bien, mais d'un peu plus près. Or le Seigneur me connaissait de près. Et savez-vous ce qui est arrivé à ce beau jeune homme que j'étais avant avec tous ses cheveux, toutes ses dents, hein ? Je m'étais écroulé, littéralement. Parce que sensibilisé à mes péchés par la parole de Dieu sur mes genoux, j'en avais versé des larmes. Pardon Seigneur, je suis un pauvre type et pitié de moi. Je ne mérite pas que tu m'aies donné ta vie. Est-ce que vous avez déjà un jour prié comme ça ? Voilà qui nous donne accès au pardon des péchés, la repentance et la confiance, c'est-à-dire la foi. Pourquoi ? Parce que aimé éperdument par le Christ. Alors, il importe que nous lui fassions confiance maintenant. Et ce même Jésus mort sur la croix est ressuscité 3 jours après. Il est donc vivant, nous honorant de sa présence ce soir dans ce lieu. Pour moi, ça ne fait aucun doute. C'est sa promesse. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, et c'est en son nom que nous sommes ici. Jésus a dit, je suis au milieu d'eux. Et parce que le Christ est ici, vous pouvez le rencontrer. Il se rencontre aujourd'hui à Ouam. Parce que le Christ est vivant, il peut passer dans votre vie. Parce qu'il est vivant, la Bible dit qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Approchez maintenant, j'ai dit. Et ouvrez-vous à celui qui est votre paix et qui veut ce soir vous sauver parfaitement jusqu'en éternité. Voulez-vous lui faire confiance ? Vous ne faites pas confiance à Alain Choiquier, hein ? C'est un pécheur qui s'est repenti. Non, moi je vous ai délivré, non pas mon message, mais celui de la parole de Dieu, le message de paix. Je vous demande de mettre toute votre confiance dans celui qui est votre paix, dans celui que la Bible appelle le prince de la paix, pas de paix en dehors de lui. Vous le recevez ce soir, vous ne savez pas comment l'approcher. Vous n'avez pas les mots. La prière, je vais donc dire une prière, comme pour vous la passer, afin qu'elle soit votre prière. C'est d'accord ? Nous allons ensemble au Christ. Il est ici. Alors allons-y. Et prions-le maintenant, chacun pour lui-même en répétant la prière. Dites, Seigneur Jésus, Tu m'as parlé de paix ce soir. Parce que tu savais que j'en avais besoin. Ta parole, ton message m'ont atteint jusqu'au plus profond de moi-même. Oh, dites-lui, Seigneur, je n'ai pas tout compris, mais j'ai compris que j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes chez moi, que tu entres chez moi pour m'accorder, m'offrir le pardon de mes péchés et ton salut. Oh, je viens à toi tel que je suis, Seigneur, dans la repentance, parce que pécheur, c'est toi qui dis vrai, Seigneur, pardon. Mais je viens aussi dans la confiance, parce qu'aimé éperdument par toi. Ô Seigneur, je veux te faire confiance, je viens. Seigneur, accorde-moi ta paix, pardonne mon péché. Je veux entrer avec toi en nouveauté de vie à partir de ce soir. Parce que tu es vivant, je prends ta main pour une nouvelle route avec toi. C'est oui, Seigneur, dites-lui, c'est oui. Viens chez moi. Viens. Seigneur, tu es merveilleux. Ce soir, tu nous as parlé de façon précise par ta parole pour nous dire que chacun, chacune a besoin de toi. Oh, que tous ceux et celles qui ont levé leurs mains te reçoivent ce soir et soient sauvés. Ta parole, ta promesse pour eux est la suivante. Tu dis dans l'Évangile, « Je ne mets point dehors celui qui vient à moi. » Et nous savons que tu accueilles ces personnes. Oh, merci, Seigneur, sauve-les maintenant. Au nom de Jésus. Amen.